Donc, quand on m'a proposé de commenter ce texte de Victor Borgogno, j'étais tout à fait ravi parce que c'est un texte que je cite tous les ans à mes étudiants à propos d'un concept qui me semble tout à fait central pour la compréhension des processus de racisation, qui est le contexte de, alors, d'exclusion de la réciprocité de perspective, qui est un contexte, un concept sur lequel j'espère qu'on va revenir. Et puis j'ai appris ensuite, parce que Victor s'est manifesté, qu'il serait là. Et donc je ne me voyais pas parler du texte de Victor devant Victor sans que Victor n'en parle aussi. Donc on a modifié le dispositif pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus interactif. Et puis l'avantage aussi, c'est que je vous invite à lire ce texte qui est vraiment tout à fait passionnant. Mais vous verrez aussi que c'est un texte qui est un peu, disons, ardu dans sa lecture. Et que du coup, le fait que Victor soit là permet peut-être d'éviter des contresens, des malentendus, etc. Donc je compte sur toi pour expliciter les nuances de la complexité de cet article. Donc toujours est-il que du coup j'ai relu ce texte que je n'avais pas relu depuis une vingtaine d'années, même si je citais la partie sur l'exclusion de réciprocité des perspectives. Et la première chose qui m'a frappé, c'est hélas la très grande actualité de ce texte. Et vous allez comprendre tout de suite, il suffit de lire les premières lignes. Hein. L'émergence et la pérennisation d'un vote populaire dont la dimension xénophobe n'est guère contestable en faveur du Front National, ont mis violemment en lumière l'existence de formes marquées de rejet des immigrés dans les milieux modestes. Bon, c'est un texte qui, de fait, pourrait avoir été écrit hier ou avant-hier, avec une actualité politique du texte et une manière d'aborder cette question du vote d'extrême droite qui me semble toujours tout à fait pertinente. Donc, actualité politique, mais aussi une forme d'actualité scientifique du texte, parce que c'est un texte qui est assez rare sur le racisme populaire, et qui, d'une certaine manière, peut être lu comme une sorte de préfiguration de certains types de travaux sur la whiteness, sur la blanchitude, autour, avec une réflexion autour des modalités de l'identification, dans certaines circonstances, au groupe majoritaire, donc la sortie, finalement, de cette indétermination du groupe majoritaire dont parle Colette Guillaumin dans l'idéologie raciste. Donc, pour mettre en œuvre ce type de démarche, cela suppose déjà de s'intéresser à ce que Victor désigne comme étant le sujet populaire national, donc finalement ce qu'on désigne parfois de manière un peu méprisante comme les petits blancs, ont à dire sur ce sujet, sur cette question, et finalement il n'y a pas tant de travaux qui s'intéressent à ça, et de ce point de vue-là, c'est un texte fort intéressant. Ça m'amène à une autre qualité de ce texte, et qui, d'une certaine manière, était une certaine nouveauté pour l'époque de cette réflexion, qui est une réflexion très théorisée. Hein. Encore une fois, ce n'est pas le texte le plus facile à lire du monde. C'est que c'est une réflexion qui est empiriquement fondée, et qui, en ce sens, rompt avec toute une tradition d'essais sur le racisme qui se développe au cours des années 60-70 et qui n'utilise en fait les matériaux empiriques que comme une illustration des thèses qui sont développées et non pas dans le cadre d'une démarche inductive, comme c'était évoqué. Et ce souci d'empirie s'inscrit en fait dans tout un ensemble de travaux qui se développent dans le cours des années 70 et 1980. Des travaux qui, curieusement, dans le texte de présentation de ce colloque, ont disparu, puisque on évoque ce qui s'est passé dans les années 50-60 et puis on saute aux années 1990. Des travaux qui, hier, ont été présentés par Maryse comme une période creuse, et des travaux qui, pourtant, ont profondément, de mon point de vue en tout cas, contribué au renouvellement des approches sur les relations interethniques en France en les ancrant dans le champ de l'habitat et dans le champ urbain et périurbain. Alors on peut penser d'une part à la redécouverte des travaux de l'école de Chicago dans les années 1970, hein, puisqu'on va avoir des traductions et des publications de ces textes en France. Mais on peut penser aussi à une figure qui n'a pas été évoquée hier, qui est celle de Michel Marié, qui travaille effectivement sur les relations interethniques, même s'il n'utilise pas forcément ce terme-là, avec la production d'un certain nombre de concepts, comme celui de situation migratoire, comme le concept de fonction miroir de l'immigré, comme le concept de fonction économique de l'immigré, donc qui vraiment se situe dans notre champ de recherche. Et puis il y a toutes les années 80, avec le développement et la montée en puissance des dispositifs politiques de la ville, et toute une série de mobilisations de financement public, que ça soit avec le FAS, que ça soit avec le commissariat au plan, le plan urbain, le plan construction-architecture, qui vont financer toute une série de travaux, dont certains sont à cheval sur la recherche et la recherche-action, mais d'autres qui sont aussi purement dans le domaine de la recherche. Et donc, avec une multiplication des travaux dans ce champ de l'urbain et du périurbain, qui aboutissent à une diffusion du thème de la France comme société pluriethnique, et une société pluriethnique qui est travaillée par des conflits, et des conflits qui se cristallisent notamment autour de la question de ce qui est désigné comme la distance culturelle entre Français et immigrés. Alors, juste pour faire une toute petite digression, moi je suis arrivé à la sociologie par ce biais-là, puisque dans les années 80, j'étais chef de projet politique de la ville. Et peut-être que toi, tu avais du mal à désigner ce qui apparaissait comme une polarisation entre Français et immigrés, mais de fait, quand tu te retrouvais en situation de devoir intervenir sur un quartier, tu ne pouvais qu'entendre cette protestation de ceux qui se vivaient comme les autochtones contre un sentiment d'invasion, de dépossession, etc., etc., avec notamment un certain nombre d'enjeux fonciers en termes de dépossession. Alors donc une multiplication de ces travaux dans les années 80, et à ce propos, il y a eu un colloque tout à fait... Alors Jocelyne hier évoquait un colloque qui s'est tenu en 83 à Grenoble, mais il y en a eu un autre en 88 qui s'appelait « Banlieue, immigration et gestion urbaine », qui avait été co-organisé par Nadir Boumaza et Véronique de Ruder. Et dans le cadre de ce colloque, eh bien Véronique de Ruder soulignait que cette thématique du conflit était omniprésente dans tous ces travaux réalisés dans les années 80, mais en même temps que cette conflictualité était très rarement ou très peu définie. Donc ça, c'est en 88. Et un des intérêts de l'article de Victor, donc, qui paraît 2 ans plus tard, mais qui s'appuie sur toute une série de travaux menés dans les années 80, c'est qu'il y a justement un travail de définition de cette conflictualité. Et donc là, je vais te passer la parole avec deux questions. C'est que j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur cette question des matériaux empiriques qui ont été mobilisés pour procéder à cette démarche inductive, et donc sur les enquêtes sur lesquelles se fonde cet article. Et puis, si tu peux expliquer, parce que tu le feras certainement mieux que moi, le travail de conceptualisation du conflit que tu fais, qui est tout à fait central dans ce texte, avec une distinction entre conflit d'appropriation d'un côté, conflit d'assimilation de l'autre, qui ne recouvre pas totalement la question d'une dimension matérielle d'un côté et d'une dimension symbolique ou idéologique de l'autre, puisqu'il y a en fait une interaction assez forte entre les deux.
Oui, donc je remercie mon coach là, qui guide mes pas dans mon comeback tardif dans le milieu de la recherche. Alors, je vous demande votre indulgence parce que mes références ne sont pas actuelles. Si je peux très bien paraître un peu ringard, mais enfin voilà. Alors, je vais donc, je dirais d'une façon générale, comme mon voisin l'a dit, il y a une genèse personnelle, biographique dans l'objet populaire, en ce sens que je trouvais, enfin, cet objet était un peu négligé dans l'équipe où j'étais, ou alors traité avec condescendance. Et alors que c'est un problème, c'est une question importante. Moi, je pense que à l'époque dont a parlé Christian, c'est là que, à mon avis, mais ça c'est très intuitif, bien sûr, qu'on a assisté à l'invention, n'est-ce pas, du petit blanc en France. Parce que ça, c'est quelque chose qui c'est une notion qui n'était pas du tout applicable à la situation française, sinon peut-être dans les colonies, je ne sais pas. Mais donc, on a vu apparaître quelque chose qui était un groupe qu'on pourrait nous désigner d'une manière savante comme le groupe des petits blancs. Bon, et moi, finalement, ce groupe de petits blancs, pour des raisons peut-être biographiques, il m'intéresse. Bon, c'est pour ça. Ça, c'est un peu la genèse personnelle. Et pour mon avis, c'est un sujet à creuser. Hein. Comment on est arrivé à créer cette espèce de groupe de petits blancs qui, à bien des égards, est aussi un groupe bouc émissaire pour les classes supérieures. Hein. Bon, voilà. Alors, maintenant, je réponds à la question concernant le contexte de l'époque. Je ne sais pas si mon article est actuel. Bon, il a 27 ans. Hein. J'ai un petit-fils qui a 7 âges. Hein. Alors, bon, il a 27 ans. Alors, je me suis posé des questions quand je suis revenu dessus. J'hésitais à venir, d'ailleurs. Quand je suis revenu dessus à l'occasion du colloque. Ça fait un peu comme le fameux biscuit proustien, hein, ça m'a rappelé tout un tas de choses. Bon, bref. Donc voilà, au départ de tout ça, il y a une enquête que nous avons menée avec Lise Wollenwegler-Andressen, ici présente, dont je souligne au passage les nombreuses contributions aux travaux de l'équipe qui n'ont pas toujours eu la visibilité qu'ils méritent. Donc nous faisions une enquête pour le compte du plan construction. Et le terrain choisi était un terrain qui se situait à la Seyne-sur-Mer. Et ça s'appelait la ZUB de Berthe. La particularité de cette ZUB de Berthe, c'était qu'elle était comprise dans les 16 premiers quartiers choisis par la défunte Commission nationale du logement social des quartiers en 1982, en même temps qu'on créait les ZEP, si vous voulez. Et c'était un de ces premiers. En somme, on avait trouvé exemplaire. Les autorités avaient trouvé exemplaire, c'est un de ces quartiers-là. Et notre enquête, au fond, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça fait partie d'un ensemble d'études mi-savantes, mi-administratives, qui étaient portées par une angoisse permanente. Comment évaluer ce que nous faisons là, quoi. Alors, je ne vous rentre pas dans le détail. Et à cette occasion-là, d'ailleurs, et même dans le texte qui a servi de réponse à l'appel d'offres, on avait déjà senti un premier clivage dans ce milieu administratif et scientifique qui entourait les débuts de la politique de la ville, un clivage très important sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir, mais sur lequel je laisse de côté pour l'instant. C'est un clivage qui avait notamment abouti au fait que notre réponse avait été recalée et qu'elle avait été rattrapée par Sayad dans le comité de... qui jugeait la réponse aux appels d'offres. Et voilà. Donc, alors, le quartier, la ZUB de Berthe, donc, c'est un quartier de la Seyne-sur-Mer. Et c'est la Seyne-sur-Mer, bizarrement pour nos rivages ensoleillés, c'est une ville industrielle. Et à cause d'un chantier naval. Avec Portbou et La Ciotat, ça faisait toute une façade de chantier naval méditerranéen, qui plus tard, par suite de fusions diverses, a été rattaché à la Normède, au sentier naval breton ou normand, mais à l'époque, ils étaient encore indépendants. Et alors, on a fait cette enquête au moment même où les chantiers navals fermaient. Il y avait un processus de fermeture. Alors, c'était un événement assez considérable, parce que j'ai recueilli quelques chiffres, là. Donc, les chantiers navals de la Seine ont été fondés en 1856, À l'époque où nous avons fait l'enquête, enfin, pas à l'époque, mais au beau temps de l'activité, il comptait 5700 salariés sur une population de 60 000 habitants, donc 22% des emplois dans la ville. Alors je vous laisse, extrapoler de ce que ça peut faire le nombre de personnes qui dépendaient de chantiers navals. Et donc, cette fermeture intervenait d'une manière progressive, mais elle était vraiment traumatisante. Et comment dire, c'est vraiment un moment très, 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 très difficile pour la ville. Et il y avait plein d'interrogations sur le futur, ce qu'on allait faire de tous ces gens, etc., etc. Et donc, on est tombé là-dedans. Et oui, alors, pour ce qui concerne le rapport à l'immigration, il y a quelque chose qui est important de prendre en considération, c'est que dans les chantiers navals, il y avait une segmentation du travail sous forme de hiérarchie, en ce sens qu'il y avait une vieille immigration africaine, black, mais très ancienne, qui était traditionnellement et malheureusement affecté aux travaux de carénage dans la construction. C'était les travaux les plus pénibles et les plus dangereux à cause des produits chimiques qu'on utilisait. Ensuite, il y avait la partie noble, le travail du glacier, des grosses pièces de fonderie. Ça, c'était l'aristocratie ouvrière. Et après, il y avait les superstructures qui étaient l'équipement au-dessus du pont, quoi, etc., et qui étaient généralement traité par des sous-traitants extérieurs. Et donc, si vous voulez, voilà, ça c'est une espèce d'ordonnancement qui a perduré pendant un moment, et là-dessus est arrivée l'immigration essentiellement maghrébine de la fin des années des 60 et 70, qui est arrivée dans ce truc-là et qui a créé une sorte d'impact, d'interrogation nouvelle, quoi. Notamment parce que, justement, eux, ils n'avaient jamais connu l'intégration par les chantiers, parce qu'ils sont arrivés au moment où les chantiers fermaient. Si bien qu'ils ont, généralement, ils se sont dirigés vers des boulots qui sont traditionnellement ceux des Maghrébins, essentiellement dans la région, le bâtiment. Quoi, voilà. Voilà pour le contexte, disons, historique. Je ne sais pas si je pourrais dire à ce propos que, oui, bon, mais ça peut-être qu'on verra ça après, dans un autre moment, parce que, en même temps, d'une manière un peu conjoncturelle comme ça, il se trouve que, bon, je rappelle que l'enquête a eu lieu autour des années 88-89. Donc nous sommes au lendemain de la cohabitation 86-88, qui a eu un raidissement de la cohabitation donc avec Balladur, qui a eu un raidissement de la politique migratoire, un serrage de vis assez, assez fort. Et là, il y a le retour de la gauche en 88, deuxième présidence Mitterrand. Et là, il y a eu, après la première période 81-86, qui était une période où il y avait un élan de générosité quand même dans l'ensemble vis-à-vis des immigrés. Et là, il y a quand même, je dirais, la politique migratoire, pour toute la façon de traiter ces questions, c'était un moment vraiment d'interrogation. Et c'est là que, à mon avis, s'est créé, et je pense que le milieu, comment vous dire, il y a un bouquin de Sylvie Tissot qui, je ne sais plus exactement le titre, oui, c'est ça, l'État et les quartiers, genèse d'une catégorie de l'action publique. C'est un bouquin, dont je conseille la lecture, elle focalise énormément sur cette période, la période 88-90, parce que c'est cette période que s'est soldée une querelle qui traversait la politique de la ville. La querelle qui traversait la politique de la ville, et c'est là que je reviendrai à la réponse à Pedroff, c'est ce que j'appellerais une querelle qui opposait, d'une certaine manière, les tenants, pour appréhender ce genre de problème, les tenants de l'exclusion, dans un terme, enfin, qui étaient les tenants en question étant les Touréniens, notamment Dubé, la Péroni, Adil Jazouli, etc. Donc, et en face d'eux, un autre plus informel, un autre groupe qui était formé en réseau sans savoir qui formait un réseau, qui était des gens qui tenaient toujours à une lecture, une grille de lecture qui continuait à maintenir ces quartiers dans la grille de lecture classique issue lointainement du marxisme, à savoir, ils n'étaient pas séparables, c'était plutôt, je dirais, c'était appréhendé sous le concept de ségrégation, mais en n'entendant pas d'une manière paresseuse, mais en entendant comme un phénomène, je dirais, de stratification, si bien qu'on est toujours ségrégé par rapport à quelqu'un, on est toujours ségrégant par rapport à un autre, quoi. Vous voyez, et il y a eu un continuum, si bien que, finalement, ce qui se passait dans ces quartiers n'était... Alors, contrairement à la coupure qu'introduisait la notion même de créer des quartiers en termes représentatifs, c'est un acte absolument presque, je dirais... un coup d'État juridico-scientifique, hein, parce que ça crée une... Après, plus tard dans la suite, vous avez après, de temps en temps, l'INSEE balançait des trucs du genre 500 quartiers, 3 millions d'habitants, et dernièrement, on a... Alors, vous voyez, ça crée dans la représentation dominante l'idée qu'il y a une sorte d'entité urbano-humaine qui est vraiment à part... Vous savez, les statistiques, elles produisent aussi, sont aussi, comment dirais-je, performatives. Bon, voilà. Bon. Et c'est là que c'est, donc, je reviens à cette querelle. Et donc, d'un côté, les exclusionnistes, c'est-à-dire les touréniens, et de l'autre, les ségrégationnistes, c'est-à-dire les gens qui, d'une manière plus ou moins, je sais pas, forte et comment dirais-je, savante, se rattacher à Bourdieu, grosso modo, voilà, au bourdieusisme, disons. Et ça, c'était donc, je reviens à l'histoire de l'appel d'offres, pourquoi il avait été mal reçu au départ et rattrapé par Sayad, c'est que dans l'appel d'offres, on faisait appel au concept de Bourdieu de lutte de classement. Et ça, c'était quelque chose qui... Et, bon, je me souviens avoir rencontré un chargé de mission qui s'appelait La Cascade, il m'avait vachement snobé quand je l'avais vu après. Visiblement, on sentait qu'on était vraiment mal reçu dans cet ambiance. Et donc, c'est donc une période où commence, si vous voulez, à s'installer. Je ne dis pas que ce milieu-là, que, en parenthèse, comment dirais-je, ce qui est intéressant dans le bouquin de Sylvie Tissot, c'est qu'elle crée une notion qui permet de mieux comprendre tout ce phénomène d'intelligence collective qui s'est créé autour de la politique des quartiers. Et elle appelle ça les réformateurs. C'est-à-dire qu'elle englobe dans la même catégorie tout un ensemble de gens qui sont aussi bien des hauts fonctionnaires que des chargés d'études dans des cabinets privés, des associations, que des membres comme nous des institutions, etc. etc. Mais une catégorie qui était surplombante par rapport à tout ça. Mais évidemment, c'est pas l'acteur décisif de l'opinion. Mais enfin, je pense que ça jouait un rôle, notamment que ce groupe de... Parce que ce groupe d'exclusionnistes, si vous voulez, outre les effets qu'auront cette grille de lecture sur le traitement futur de la politique, sur les orientations futures de la politique de la ville, donc ces exclusionnistes avaient reçu un soutien de Marx en espèce par la revue Esprit, qui, elle, si vous vous reportez au numéro de l'époque, vous verrez qu'il y a énormément... De travaux qui sont consacrés à justement ce thème de l'exclusion avec cette nouvelle représentation d'une dualisation de la société dont les quartiers seraient évidemment l'expression. Là, je me suis peut-être un peu écarté, non, je ne sais pas, ça va bon, bah, oui, alors bon, après, comment dirais-je, bon, après, je rejoins un peu mon voisin, parce que j'ai beaucoup aimé son exposé, parce que ce qui n'apparaît pas dans un texte à prétention scientifique, c'est tout ce qui s'est passé sur le terrain et qui dit... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais c'est pas fini, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, mais je suis trop long. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, bon, on avait une approche du terrain qui était... ça n'apparaît pas dans un texte à prétention scientifique, une autre... Je ne qualifierais pas d'un quelconque non savant, mais disons, on traitait ça, allez, à la bonne franquette ethnologique, quoi, avec Lise. On avait énormément de liens, on avait des connaissances avec un prêtre ouvrier qui était une mémoire vive du quartier, très intéressant, et etc. Moi-même, comme j'ai le permis poids lourd, j'avais conduit le char de carnaval dans le moment du quartier. Il y avait un carnaval sur le quartier et j'avais été embauché comme chauffeur d'un des chars. Enfin, bon, c'est pour vous dire que voilà, il y a une dissociation complète entre ce qui s'est passé sur le terrain et la réduction peut-être utile à la science, j'en sais rien, mais c'est vraiment réductionniste par rapport à la richesse d'une expérience de terrain. Bon, après, on verra dans la discussion, je me suis écarté, excuse-moi.
Peut-être très rapide.
Oui, alors comme tu veux. Tu me parlais des conflits, alors, si tu veux. Vous, on fait parler, comment on fait, je sais pas. Moi, ils m'ont mis un papier, il faut que je conclue, mais c'est pas... le principe, mademoiselle, c'est excusez-moi, mais il n'y a pas de conclusion, parce qu'on a prévu un dialogue, si vous voulez. Si on avait fait deux exposés, vous pourriez nous réclamer d'une manière rituelle la conclusion, mais c'est pas le cas.
Non, mais tu peux peut-être dire quand même deux mots sur la distinction entre conflit et assimilation.
D'accord. Oui, alors, donc, ok. Bon, alors, vous verrez que dans... Oh, ça va, ça... Laisse-moi poser, là, je ne parle jamais, arrête. Non, mais je vais prendre une autre méthode. Le titre, c'est « Discours populaire sur l'immigration, un racisme pratique ». Des fois, je me suis même moi-même demandé ce que ça pouvait bien vouloir dire, mais je suis arrivé quand même à le déchiffrer, surtout après tant de temps. Et donc, d'abord, premièrement, tenez bien compte du point d'interrogation. Parce que, contrairement à ce qui peut apparaître, d'une certaine manière, intentionnellement, c'était plutôt un effort pour disculper autant que faire se peut de la charge qu'on faisait porter aux épaules de ces pauvres petits blancs en les accusant de tous les mots racistes. Bon. Donc, contrairement à ce qui peut apparaître, il faut le lire d'une certaine manière, bien que ça ne soit pas évident, comme un effort de voir au plus près comment on peut vraiment... parler de racisme, est-ce que c'est bien vrai tout ça? Après, c'est le terme discours populaire sur l'immigration. Encore une fois, là, il ne s'agit pas d'étudier le racisme populaire, mais d'étudier le discours populaire. On peut s'interroger sur la constitution de la catégorie, mais c'est ça qu'il s'agit d'étudier. Et le discours populaire, ça signifie que déjà, il y a un coup de force en disant il y a un discours. Alors que jusque-là, si vous voulez, il y avait une attitude qui est manifesté d'une manière, même dans des travaux savants. Je me souviens avoir lu un article de Serge Moscovici, le père de l'autre, Serge Moscovici, le psychosociologue, dans la revue Le Genre Humain, qui est paru en 81, et il y avait deux numéros, La société face aux racines, je vous conseille la lecture, moi je les ai conservés, c'est le rare bouquin que j'ai conservé. Et dans La société face au racisme, il a lu lui-même entre les mains, à la suite d'une enquête parallèle, du discours populaire sur l'immigration. Et il a, celui qui l'avait sollicité pour cet article, l'organisateur du numéro de la revue, il répond « Finalement, j'ai échoué, il n'y a pas de discours, je ne peux pas te répondre ». Il dit « Voilà, je veux dire qu'il y a du racisme, mais ces discours ne sont pas, mais sont pas racistes. Mais il y a du racisme, alors comment répondre ?» Alors finalement, il dit « Le noyau dur, c'est le ressentiment. » Voilà. Et là, en fait, on peut se demander si ce n'est pas le préjugé traditionnel qui remonte probablement à, je sais pas moi, Nietzsche, Max Scheler, le peuple, l'homme du peuple, c'est l'homme du ressentiment, de l'envie, etc., etc. Voilà comment a été traité. Par contre, un autre auteur m'avait quand même... On peut guider aussi, que je ne crois pas avoir cité dans la biblio, c'est Altab, qui avait étudié dans un quartier l'intercommunication dans les groupes d'associations, etc., et qui parlait de procès. Et ça, le procès, c'est quelque chose que j'ai retenu. Après, pratique. Bon, je reviens sur pratique. Alors, ce n'est pas opposé à théorie pratique. Hein. Pratique, tel que je l'ai mis là, c'est, comment dirais-je, il faut se rapporter au bouquin de Bourdieu, le sens pratique, si vous voulez. Alors, j'ai fait une anti-sèche, là, parce que... Alors, voilà, j'ai trouvé cette formule. L'agent engagé dans la pratique connaît le monde, mais d'une connaissance qui, comme l'a montré Merleau-Ponty, ne s'instaure pas dans l'extériorité d'une conscience connaissante. Il le comprend en un sens trop bien, sans distance objectivante, comme allant de soi, précisément parce qu'il s'y trouve pris, parce qu'il fait corps avec lui comme un habitat familier. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire, ça ne se pose pas, le mot pratique dans le titre, ça ne se pose pas à théorique ou je ne sais quoi, ça se pose à sens réflexif. C'est-à-dire, c'était irréfléchi, mais pas dans le sens péjoratif, si vous voulez. C'était presque un habitus, ça relève de l'habitude, si vous voulez. Et ça, c'est très important pour comprendre comment on peut construire l'objet racisme populaire en considérant d'abord que si racisme il y a, il ne relève pas de l'échafaudage d'une doctrine une subjectivité totalement habitée par la construction, la doctrine raciste, un peu comme vous pouvez trouver actuellement un bouquin de, je crois que c'est Yann Chapoutot, qui s'appelle « La loi du sang, vivre et penser en Asie ». Je ne l'ai pas lu, hein, mais je me propose de le lire. Et je pense qu'effectivement, là, on doit avoir l'idée de ce que peut être une subjectivité entièrement habitée par le racisme, si vous voulez. Donc, c'est moi, le racisme, si, encore une fois, si raciste bien, si on peut décréter que ce discours est raciste, en tout cas, c'est un racisme réflexif qui s'ancre dans une sorte d'habitus, parce qu'on parle beaucoup du comportement des immigrés, mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que les petits blancs sont aux premières loges. Nous, on oppose toujours, enfin nous, les chercheurs, tout ça, on oppose toujours la société d'accueil, les immigrés, l'intégration, pas bien, pas bon, l'assimilation, pas bon. Mais il y a des gens qui sont dans une position spécifique par rapport aux immigrés, entre guillemets. Et cette situation spécifique, c'est la proximité spatiale et sociale qui, comme vous le savez depuis l'article de Chambourdon et Le Maire dans la revue française de sociologie de 1970, n'est pas la même chose. Hein. Je vous renvoie à cet article qui, pour moi, est princeps. Donc voilà, donc, quand le peuple ou le sujet populaire prononce son discours, il le prononce en ayant la conscience confuse, plus ou moins confuse, qu'ils ont un rôle à jouer et que ce rôle, au fond, n'est pas reconnu. Puisque, précisément, le discours qu'ils tiennent, on ne l'entend pas. On l'entend sous forme d'une irrationalité, d'un borborigme comme ça, ben, qui, de toute manière, est indexé comme preuve de racisme ou de rejet xénophobe. Enfin, il ne peut pas y en aller autrement. Il y a des expériences historiques qui l'ont montré, etc. Alors après, je reviens aux notions de conflit. C'est là que je reviens au lien avec Altab. C'est que Altab, dans le papier que j'évoque, il utilise la notion de procès, dans des interactions de proximité, hein, comme ça. Et effectivement, dans mon texte, j'avais été tenté d'employer, ça on en a discuté avec Christian, le mot procès, et j'ai fini par mettre celui de conflit. Je me suis demandé pourquoi, parce qu'à mon avis, à l'époque, le mot procès aurait été plus approprié. Et même littéralement parlant, il était plus approprié. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est les conflits que je traite? C'est des reproches, des objections, des interrogations accusatrices que le populo adresse aux immigrés, si vous voulez. Et donc voilà, la figure du procès, ils leur font un procès. Ça aurait dû me paraître plus évident. Et je me suis demandé pourquoi j'avais mis conflit. Et alors là, le coup de la Madeleine a ressurgi. Je me suis rappelé que j'avais délibéré en moi-même la question. Si j'avais choisi conflit, c'est précisément pour attirer l'attention sur l'importance qu'il y a à ce qu'il y ait un conflit. Alors, ce conflit n'existait pas, puisque on ne reconnaissait aucun rôle. L'exclusion de la réciprocité de perspective que j'utilise à propos des petits blancs et qu'a rappelé Christian, elle s'applique aussi à l'observateur qui lui-même exclut le point de vue des voisins sociaux et spatiaux des immigrés de sa réflexion, si vous voulez. Donc voilà. Donc j'ai choisi le mot conflit. Et ça c'était un côté un peu, c'est une wishful thinking, c'est-à-dire j'aurais aimé que le conflit existe. Mais il n'existait pas, il était en germe, il aurait dû pouvoir être exprimé, pouvoir trouver des lieux où il apparaisse, afin qu'on fasse apparaître un problème de la convivence des deux fractions populaires, appelées en principe, comme on l'a vu dans l'histoire, à se rapprocher, à s'intégrer, s'intégrer, si vous voulez. Mais ce conflit était précisément escamoté. Et il était pour quelqu'un aussi cette représentation de dualisation de la société qui contribuait à vraiment faire des quartiers et des gens qui peuplaient majoritairement ces quartiers des êtres humains à part. Alors après, il y a les deux conflits en question. Conflit d'appropriation. Conflit d'appropriation, on pourrait retourner la chanson. Alors justement, je faisais allusion à la notion de lutte de classement utilisée, popularisée par Bourdieu. Vous trouvez, je crois, un exemple dans Homo Academicus, Mulieres Academicae, je ne sais pas ce que vous dites. Bon, bref. Et c'est, on peut dire que les conflits tels que je l'emploie, c'est la face subjective ou subjectiviste de la face objective que sont les conflits de classement. Si vous voulez. Et c'est très important parce qu'effectivement, là je reviens au terrain, c'est un lieu qui d'une manière exemplaire, à cause de la netteté des limites qui séparent les groupes, avec cette hiérarchie qui était présente dans les chantiers, dans la production des bateaux, c'est le lieu où jamais, où vraiment la question du classement, c'est-à-dire de quelle place va avoir chacun dans l'ensemble en train de se former, eh ben, la question du classement se posait d'une manière, d'une manière comme une expérience in vivo, quoi. C'était vraiment ça. Donc, alors, le conflit, hein. Alors je l'ai vu. Bon, voilà, le conflit d'appropriation, en gros, c'est ça. Et ce que je voudrais dire, c'est à propos du conflit d'appropriation, c'est qu'en fait, dans la vision bourdieusienne, qui est assez la mienne, même si je ne suis pas assez savant pour la partager entièrement, je crois que c'est quelque chose qui est commun à toutes les classes sociales. C'est-à-dire que le conflit de classement d'appropriation, c'est que les couches sociales qui les prouvent d'une manière dans toutes les autres strates de la société. Donc il n'y a aucune raison d'en faire, comment dire, grief à cette couche-là, plus que, je sais pas moi, le prof de chair qui se classe par rapport au maître de conf, etc. Vous voyez, un peu de trucs comme ça. Mais par contre, ce qu'il y avait de nouveau et d'extraordinaire dans le conflit de classement opposant les couches populaires aux immigrés, entre guillemets, c'est qu'eux, ils avaient affaire aux immigrés, justement, c'est-à-dire des autres. Et c'est là qu'intervient le conflit d'assimilation. En somme, dans la mécanique, si le conflit d'assimilation qui consiste le procès en disant vous n'êtes pas comme moi, mais alors là, attention, parce que c'est pas seulement un procès culturaliste. Là, quelquefois, on dit toujours que le passé éclaire le présent, mais là c'est le présent qui éclaire le passé. Le procès en assimilation que faisaient les petits blancs, c'était un procès en communautarisme, pas tellement en conflit, vous n'êtes pas comme moi, vous avez d'autres mœurs, vous tuez, etc. Non, c'est un conflit en communautarisme. Et ça, c'était très 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 bien. Je me souviens que le prêtre ouvrier, quand je faisais allusion, il me disait, mais je leur dis, mais posez votre sac, pourquoi vous n'êtes pas avec nous, voyez. Et alors, revient un peu, par notre goût, la politique de l'époque, qui était quand même une exaltation de l'identité, de la différence culturelle, marquée notamment par l'autorisation rétablie alors qu'elle avait été supprimée en 1939, de créer des associations étrangères, etc. Et sur la ZUP, il y avait des associations étrangères. Voilà. Donc voilà, le conflit d'assimilation fait pendant le conflit d'appropriation, mais c'est ce qui marque la différence. C'est en ça que les petits blancs sont coupables, c'est d'être placés dans cette situation. Voilà, d'un conflit d'appropriation qui n'a rien que de très banal sociologiquement, et qui pour eux n'est pas banal en raison de la couche inférieure auquel ils ont affaire. Et qui... Alors, en plus, il faut se souvenir que... pardon. Excusez-moi.
Je ne sais pas jusqu'à quel point, on a encore deux ou trois minutes, au moins pour dire... Peut-être ce qui, à mes yeux, fait l'intérêt du concept de refus de réciprocité des perspectives. C'est, pour le dire très, très abruptement, c'est en fait la capacité d'adopter une position empathique par rapport à celui qui est désigné comme alter. C'est l'incapacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses problèmes à lui et de les considérer comme des problèmes qui peuvent être collectivisés. Et c'est finalement quelque chose qui est au cœur de la fonction de prophétie autocréatrice du racisme et qui est au cœur du processus de racisation. Il faut, d'une certaine manière, arriver à désactiver la possibilité d'envisager que l'autre, que l'alter est aussi mon ego, pour mettre en œuvre un certain nombre de pratiques qui aboutissent finalement à faire qu'il ressemble à ce à quoi je pense qu'il ressemble. Et donc on peut retrouver ça effectivement dans l'étudiant du côté des pratiques populaires. Après ça, dans le texte, il y a quelque chose de pas très clair. C'est-à-dire que tu renvoies une perspective, une perspective bourdieusienne. Donc, on a l'impression que finalement, c'est l'habitus qui se forme sous l'effet comme ça des structures et qui fait que, de toute façon, on a un habitus national et nationaliste qui fait que, voilà, l'alter va être incommensurable, en quelque sorte, mais on peut penser qu'il y a aussi des pratiques qui sont mises en œuvre par des acteurs individuels ou collectifs, qui sont des acteurs institutionnels, qui sont ceux qu'on désigne comme les élites, pour prendre, et je m'arrêterai là-dessus, juste un exemple tout simple, c'est la question des Roms. Quelle est la population aujourd'hui en France qui pourrait être traitée comme le sont les Roms par les élites? C'est-à-dire que quand on a au journal de télévisé de 20h une scène d'actualité qui passe dans laquelle on voit des pelleteuses qui viennent détruire des campements et qu'on met sur la route des femmes, des enfants, des vieillards, etc., que tout ça est filmé, exhibé, commenté par des hommes politiques, cela suppose qu'en amont, il y a des politiques institutionnelles, qu'il y a un préfet qui donne l'ordre d'expulsion, mais qu'il y a aussi un préfet qui prévient les journalistes, puisque les caméras sont là, qu'il y a un travail de production de la mise en scène de ce traitement qui ne serait applicable à aucune autre population, et qui à la fois reflète cette exclusion de la réciprocité de perspective et qui, en même temps, la construit et l'alimente. Donc c'est vraiment un concept qui, de mon point de vue, est extrêmement heuristique et qui comprend comment est possible des formes d'atterrissage aussi violentes que celles qui constituent la racisation.